Théologie en liberté.
Et Dieu dans tout ça.
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 Dieu au cœur du monde et de l'actualité, tout simplement. Au micro, Joël Baumann. Eh bien, je suis en compagnie aujourd'hui pour cette émission particulière de Théologie en liberté avec Pierre Elmer, que nous avons déjà retrouvé une fois. Bonjour.
Bonjour Joël.
Nous avions une première émission autour de son livre Ecce Homo, l'évangile selon toute vraisemblance. Alors je répète quand même, c'est aux éditions Nombre 7, un livre que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies, comme on dit habituellement. Et je voulais quand même, j'étais un peu frustré la dernière fois, nous avons fait le tour un peu du personnage, mais du personnage auteur de Pierre Elmer. Nous avons introduit le livre, mais nous ne sommes pas rentrés réellement dans le fond du sujet, et c'est ce que je voudrais faire maintenant. Alors juste en quelques mots, je redis pour ceux qui ne sont pas encore précipités au podcast du 31 mars, hein, où nous avons déjà parlé avec Pierre Elmer. Vous êtes passionné d'histoire, vous êtes fils d'une mère juive et d'un père protestant non pratiquant, et vous vous déclarez vous-même agnostique. Ça, c'est pour situer la personne vous et l'auteur de ce livre. Vous êtes particulièrement intéressé par ce personnage qui vous touche profondément, Jésus. Et alors, Ecce Homo, voici l'homme, c'est l'expression que l'on prête à Ponce Pilate dans l'évangile selon Jean, gouverneur de Judée, lors de l'arrestation de Jésus. Il dit, voici l'homme, Ecce Homo. Il a passé, notre Pierre Elmer, ici présent, 5 ans à étudier le Jésus historique, beaucoup lu, les évangiles bien sûr, mais aussi des auteurs touchant la personne de Jésus, croyant ou non croyant. Les évangiles apocryphes aussi, dit ainsi, ou non canoniques, c'est-à-dire beaucoup plus récents que les évangiles, vers 200-300 ans, hein, oui, c'est ça à peu près, hein, de notre ère. Vous avez voulu, vous, rester sur le terrain donc, de l'histoire. Vous avez recherché ce qui pourrait être l'histoire de la communauté créée autour de Jésus, telle qu'on pourrait la relater si elle se passait on dirait aujourd'hui, sans rendre compte des miracles potentiels. Voilà, vous parlez de l'engagement de certains hommes et d'une femme autour de cet homme Jésus. Et votre livre, vous le dites vous-même, est donc une fiction. Vous dites même en préface, 95% de mes conjectures sont très probablement fausses, mais ce qui est amusant, c'est d'imaginer les 5% restants. Là, vous êtes modeste, je pense qu'il y en a plus que il y a plus que 95% de faux dans ce que vous dites, parce que vous vous êtes bien documenté et que nous rentrons dans cette culture de la Palestine de l'époque de Jésus, et tout cela est fort intéressant. Alors, j'en viens donc au livre, et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui ensemble. Vous parlez donc de la naissance d'une communauté, finalement de l'incident au temple qui, je dirais, a mis le feu aux poudres pour l'arrestation de Jésus et la suite, c'est-à-dire la séparation, l'éclatement de la communauté. On ne va pas pouvoir parler de tous les témoins que vous convoquez.
Et c'est bien dommage.
Oui, dans ce livre, il y a différents disciples. Simon, Barthélemy, qui d'autre ?
Matthieu, Jacques,
Pierre.
Philippe.
Qui d'autre encore ?
Marie-Madeleine. Voilà.
Et Marie-Madeleine, alors Marie de Magdala. Donc voilà, tous ces personnages-là, on ne va pas pouvoir les voir en quelques 20 minutes. Mais, d'accord, ensemble, on va quand même s'attacher à, en tout cas, deux, peut-être trois si on a le temps, mais en tout cas deux, c'est-à-dire Simon et Barthélemy.
Voilà.
Alors,
en tout cas, mon Simon et mon Barthélemy, puisque je n'aurais pas la prétention de dire que c'est parole d'évangile, hein, ce que je dis. On répète ce que vous avez bien dit, à savoir 95% d'extrapolation.
Oui.
Je ne peux pas penser que je dis plus de vérité que ça.
Ouais.
Cela dit,
Je crois qu'il y en a plus quand même, mais bon.
Ben c'est gentil.
Oui. Sur Jésus, il n'y a pas de problème. Jésus a existé.
C'est sûr.
On a des témoignages.
Aucun historien crédible ne pourrait le remettre en question.
Voilà. Et donc, vous avez essayé de créer un portrait d'un de la communauté, un des disciples, Simon. Alors, qui est Simon? Comment se présente-t-il? Au début du livre, il se présente.
Alors, Simon, dans les évangiles...
D'ailleurs, disons juste que sur la structure du livre, ce sont des lettres que vous leur faites écrire.
Tout à fait.
Ils rendent compte de leur témoignage.
À la première personne.
À la première personne. Mmh. Voilà, alors Simon.
Simon, qu'est-ce qu'on peut en dire? J'ai essayé de trouver un maximum d'informations pour pouvoir à la base me permettre d'extrapoler. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans les évangiles? Simon est appelé Simon le Zélote ou Simon le Cananéen. Alors il y a deux versions qui s'affrontent un petit peu. Moi j'ai opté pour Simon le Zélote pour les raisons que j'ai expliquées, parce que ça me permettait d'introduire le contexte politique de la Palestine de l'époque. Simon, c'est un Zélote. Alors Zélote, ça vient de zélé en grec, être zélé, avoir une être un peu excessif dans la politique, dans la religion. Et les zélotes
c'est un radical,
ils incarnent une sorte de parti nationaliste
violent,
extrémiste, intransigeant, qui n'a qu'un seul but: chasser les Romains de Palestine.
Voilà.
Donc bah clairement on peut imaginer qu'il va y avoir rapidement des différends qui vont opposer Jésus et Simon. Simon parce qu'il veut la guerre, et Jésus qui est à l'opposé de tout cela.
Et pourtant, Jésus a accepté ce genre de personnage dans sa communauté. C'est assez incroyable.
Moi, j'ai utilisé le fait que Jésus est le demi-frère de Simon. Voilà. Alors, ça peut expliquer qu'il y ait des liens et qu'ils se sont rencontrés peut-être un peu plus facilement. Mais, alors, je ne sais pas si on allait parler de Barthélemy tout de suite.
Oui, mais tout, quand on veut, oui, on peut...
Barthélemy et Simon... Alors, Barthélemy, clairement, c'est pas
l'inverse.
Simon. C'est l'inverse. Tout à fait l'inverse. Barthélemy, c'est le jouisseur. C'est l'épicurien, le profiteur, celui qui fait la fête sans limite. L'organisateur de la fête. Et donc,
Et un jour, il rencontre Jésus
et il tombe comme beaucoup fou amoureux. Et quel est le rapport entre Barthélemy et Simon? Aucun, probablement. Mais les deux se sont fréquentés grâce à Jésus. Jésus était le lien qui permettait d'unifier toute cette communauté. Et oui, il n'y a aucun point commun entre Barthélemy et Simon. C'est même des extrêmes. La vraie question, c'est... Comment ça se fait qu'ils ont réussi à...
Comment ils se retrouvent là, voilà, autour du même maître, du même rabbin, Jésus.
Cette capacité de Jésus à réunir les gens, c'est peut-être déjà ça, l'un de ses premiers miracles.
D'accord, oui, certainement. Alors, Barthélemy, reprenons un peu Barthélemy.
Ah, Barthélemy, Barthélemy. Parce que je ne veux pas choquer les auditeurs, Barthélemy est déviant.
Il a beaucoup voyagé.
Il a beaucoup voyagé, à Nîmes, par exemple.
Voilà, j'allais y venir, vous allez trop vite.
J'ai trop vite.
Mais oui, donc c'est quelqu'un qui a découvert le vin. Oui. Alors, je lis un extrait de votre livre. « Je fis plusieurs allers-retours, c'est donc Barthélemy qui parle, entre Chypre et l'Égypte, comme cuisinier sur un petit navire. Je devins ensuite artisan maçon en Sicile, docker en Espagne, et enfin seulement j'atterris plus ou moins par hasard dans une petite ville en Gaule romaine, coincée entre la montagne et la mer, Nebozaus, la ville des fous. Bien aidé par quelques mots de latin que je connaissais, je trouvais rapidement, comme d'habitude, un petit boulot. Et là, il découvre les vignes, il découvre le vin.
Le vin, et surtout cette manière que les Celtes et les Gaulois avaient de conserver le vin, une technique tout à fait innovante à l'époque, ces tonneaux en bois qui permettaient la conservation très longue, que les peuples du Moyen-Orient ne connaissaient pas, à cause de la température et de la difficulté que l'on a à conserver les aliments sous ces latitudes. Vous savez bien que les vins à cette époque-là, au Moyen-Orient, étaient confectionnés avec des épices, dans le but de les conserver. Donc on peut imaginer que la différence de goût entre le vin palestinien et le vin gaulois était importante, très importante.
Et donc il fait commerce.
Il importe du vin gaulois en Palestine, qui bientôt permettra les noces de Cana.
Alors voilà, donc il crée une boutique, il crée un commerce à Capharnaüm.
Tout à fait.
Et c'est une entrée financière pour la communauté.
C'est une petite entrée financière, mais je me suis surtout servi de cette histoire pour parler un peu de Nîmes, pour parler un peu de la feria.
Parce que vous êtes écrivain, ni moi, il faut le dire. Hein.
Je suis naïf. C'est vrai que je suis un petit peu chauvin.
Oui.
Pas trop, mais un petit peu quand même, comme tous les bons Nîmois.
Oui.
Et à Nîmes, on a la feria. Alors qu'est-ce que c'est la feria quand même? Eh bien, la feria, c'est un grand mélange de tous les âges, de toutes les couches sociales. Et j'ai essayé de l'expliquer un peu dans mon livre en disant que Barthélemy, voyant la feria de Nîmes à l'époque romaine, eh bien, il a un petit peu été très, très surpris en voyant les esclaves, les maîtres boire ensemble. Bon, évidemment, tout ça est fictif, mais pas tant que ça, finalement. Et il est reparti de Nîmes, et reparti en Palestine, en important ce qu'il avait vu à Nîmes. Et peut-être que cela l'a inspiré pour Cana. À savoir un Cana, excès c'est... de fête, un excès de vin, un excès de...
Voilà, donc on en arrive à un chapitre sur Cana. En quoi le vin de Gaulle est meilleur pour ces noces de Cana? Et pour expliquer les noces de Cana?
Alors, moi, je ne bois pas d'alcool.
Oui.
Parce que je suis allergique au sulfite. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis vraiment pas bien placé pour vous dire en quoi le vin gaulois aurait été meilleur à cette époque-là. Mais quoi.
D'accord, mais au niveau théologique et au niveau explication de texte,
Joël,
de l'évangile...
Qui, c'est vous qui devez m'aider là sur ce petit... je ne sais pas, mais ça serait vraiment intéressant à creuser et à développer.
Voilà. Bon,
mais comme c'est fictif, je ne peux pas partir plus loin
bien
que ce que je suis déjà parti.
Bien sûr. Alors, on laisse en suspens cette question-là. On fait une pause musicale et on se retrouve tout à l'heure. Théologie en liberté, vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus et nous sommes en entretien avec Pierre Edmer, auteur nîmois, d'un livre sur Jésus, en tout cas sur la communauté autour de Jésus, qui s'est créée autour de Jésus. Alors je reprends le titre du livre, « Excès au mot, l'évangile selon toute vraisemblance ». Donc c'est une fiction que Pierre nous propose, très 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 intéressante. Alors nous prenons deux personnages, Barthélemy et Simon. Nous avons parlé de Barthélemy, on pourrait encore en parler, et on va certainement encore en parler, parce que c'est le bon vivant qui est là au milieu, dans la communauté, dans cette communauté autour de Jésus. Et puis, nous avons parlé de Simon, qui est lui zélote, c'est-à-dire un radical politique violent, qui n'a qu'un but, comme tous les zélotes de l'époque, vider les Romains de Palestine. Jésus a tout ça autour de lui, des gens
c'est tellement... C'est une attente messianique même.
Tellement, c'est une oui, pour mettre un roi messianique, un roi juif à la place des Romains, oui, du pouvoir romain. on a tout ça autour de Jésus. Donc on va reprendre un peu. Simon, vous lui faites dire à un moment donné, c'est grâce à moi que Judas, qui est aussi zélote, qui fait partie un peu du clan de Simon,
il manie les armes et qui est prêt à s'en servir à tout moment.
Ouais. Et on le voit ça autour, au moment de l'arrestation, quelqu'un sort.
Un sicaire.
Alors vous faites dire à Simon, dans son témoignage, Judas devient trésorier du groupe à la place de Matthieu grâce à moi. Alors expliquez.
Alors, dans les évangiles, cela est dit.
Oui,
c'est-à-dire
oui.
que c'est Judas qui a récupéré le poste de trésorier.
Alors que Matthieu était...
C'était lui le trésorier. C'est ça que vous, c'était lui le grand organisateur, parce que c'était un publicain. Donc il avait les bases juridiques et économiques pour avoir cette facilité à gérer. Mais il y a eu une scission très rapidement au sein de la communauté. Déjà, on n'a pas dit, mais dans mon bouquin, Barthélemy et Simon se détestent cordialement. Pour les raisons qu'on vient d'imaginer. Simon, c'est un petit chef, c'est un guerrier, et sa seule place dans la communauté, c'est de maintenir l'ordre. Enfin, c'est ce qu'il croit en tout cas. Lui est persuadé que sans apport de violence et d'agressivité, la communauté ne peut pas perdurer. En tout cas, c'est ce que pensent les zélotes et c'est ce que pense Simon.
Et la mission de Jésus ? Réussir.
Et la mission de Jésus, réussir. Mais Barthélemy pense exactement le contraire. Et je pense, c'est mon idée personnelle, que Jésus pense aussi le contraire. C'est-à-dire qu'évidemment, la communauté de Capharnaüm n'a aucun rapport avec la violence et l'intimidation de quelque sorte. Et donc, évidemment, ça va créer les premières divergences au sein de la communauté. Simon, en tant que demi-frère de Jésus, a des moyens, des petits pouvoirs, on peut l'imaginer. Et dans mon livre, c'est lui qui impose la présence de Judas en tant que nouveau trésorier. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut imaginer que la communauté se coupe vraiment en deux, littéralement. Puisque d'un côté, il y a les pacifistes et de l'autre, il y a les zélotes. Le problème, c'est que la trésorerie est tenue par les zélotes.
C'est ça qui est étonnant quand même. Parce que ça, c'est vrai. On le lit dans l'évangile, dans les évangiles. Mmh. On lit que Judas est réellement le trésorier du groupe. Comment Jésus a pu laisser faire ça, lui qui est un pacifique et qui essaye de prôner le pacifisme? C'est intéressant. On va pas aller plus loin là-dessus, mais oui, il y a comme ça des intuitions, des choses qui apparaissent dans votre livre qui sont fortes, intéressantes.
L'évangile de Judas, si on peut en parler une petite minute, est passionnant. Le codex Tchakos, il est passionnant parce qu'il raconte un lien très fort d'amitié entre Judas et Jésus. Dans ce codex, clairement, Judas dit « Je suis le préféré de Jésus ». Alors, est-ce vrai ou pas? On ne sait pas. Mais c'est ce que dit clairement l'évangile de Judas, qui est passionnant et que j'invite tous les lecteurs à lire.
Dans le groupe de Jésus, on vient d'en parler, des tensions, des façons différentes de comprendre le message de Jésus et d'aller au bout de ce message.
J'ai une tentative, peut-être un peu maladroite de ma part, mais une tentative d'explication qui pourrait expliquer qu'à un moment donné, la communauté, puissante comme elle était, s'est quand même scindée, s'est quand même divisée. Alors, une des premières explications que j'ai tenté d'apporter, c'est cette division entre pacifistes et zélotes. Puis après, je me suis quand même interrogé quelle était la place de Jésus, comment aurait-il pu prendre parti. Et connaissant un peu Jésus, très modestement, je me suis dit, il a tout fait pour pas prendre parti. Et le meilleur moyen pour lui, c'était de continuer à voyager, de continuer à prophétiser et de ne plus rester à Capharnaüm afin de ne plus prendre parti. Car c'est l'impression que j'ai eue avec mes lectures. J'ai l'impression que tous les apôtres essayaient de le tirer vers lui. Dans les évangiles, il y a Jean, il me semble, et Jacques, je ne me souviens plus là, j'avoue, qui prennent Jésus à témoin et qui lui disent « Promets-nous de nous mettre un à ta droite, un
c'est
à ta gauche. »
C'est les deux, je pense.
C'est les deux. Ouais. Et donc, c'est quand même bien révélateur du fait que les apôtres ont essayé de récupérer Jésus pour illustrer leur demande, leur pouvoir. Qui a gagné, je ne sais pas, mais il y a quand même eu une lutte, clairement.
Oui.
Et Jésus a voulu s'extirper de cette lutte.
L'un voulant être ministre des Affaires étrangères, l'autre des Finances, l'autre...
Le pouvoir. Le pouvoir.
Jésus leur dit, non, redevenons des petits-enfants, c'est-à-dire restons dans la confiance.
C'est ça. Et ouais. Jésus part, les prend à contre-pied à chaque fois. Hein.
Donc, des clans qui vont pas régler le problème. Il y a quelque chose de très important, un événement très important, c'est l'assassinat de Jean le Baptiste, fomenté par Hérodiade, la femme d'Hérode. Ça, nous l'avons aussi dans les évangiles. Et là, il y a aussi, c'est un point un peu charnière. Pour,
ah, complètement. Alors complètement. Alors, qu'est-ce que je pourrais en dire en tant que non-historien professionnel? Jean le Baptiste était un prêcheur qui n'avait pas sa langue dans sa poche, très droit, très orthodoxe. Et à cette époque-là, il semblerait que Hérode, le fils de Hérode le Grand, a tenté un mariage qui n'est pas du tout passé parce que ce n'était pas un mariage d'amour, ce n'était pas un mariage religieux. Et il semblerait que Jean le Baptiste ait critiqué très fortement ce mariage et été enfermé à la suite de ses déclarations à Machéronte, la forteresse de Hérode, le fils d'Hérode le Grand. Et peu de temps après, il a été exécuté. Enfin, c'est les évangiles qui nous racontent que Hérode aurait demandé à son épouse de faire danser Salomé, la fille de son épouse, et après cette danse, aurait dit à Salomé, écoute, tu as tellement bien dansé que je t'offre tout ce que tu veux, demande-moi et je te l'apporterai. Et Salomé, peut-être sur la demande de sa maman, aurait dit, eh bien, apporte-moi la tête de Jean-Baptiste et je serai satisfaite.
Oui, mais alors, en quoi ça change là la donne dans le groupe?
Eh bien, on peut imaginer toujours pareil, sur la base de cette naissance de division, qu'une partie de la communauté se serait investie pour la défense de Jean-Baptiste et avec les autres aurait accepté de prendre les armes. Et on peut imaginer que Jésus, toujours dans son optique de ne pas se battre, de ne pas prendre parti, aurait... pas lâcher l'affaire, c'est pas le mot, mais en tout cas n'aurait pas réagi de façon si virulente que les zélotes. Alors, l'assassinat de Jean-Baptiste est un point central dans mon bouquin, et pas que dans mon bouquin, je pense, où il y a les divergences qui s'accroissent, tout simplement, quoi.
Alors, là encore, hein, dans le témoignage de Simon, hein, vous faites parler Simon, là, dans son journal, j'ai honte de mon frère, il fait honte à toute notre famille, il parle là de Jésus. Donc il se sent trahi par Jésus. Alors parlons un peu de cette trahison.
Eh bien, on peut imaginer
vécu,
que...
Vécu par les zélotes, par les radicaux
voilà,
du
c'est
groupe.
C'est vraiment l'avis des zélotes, et cet avis, il faut le nuancer, évidemment. Ouais. Les zélotes, c'est des gens qui ont décidé de se battre, et donc potentiellement de sacrifier leur vie pour l'indépendance d'Israël. Donc, pour Simon et les zélotes, eh bien en fait, la grosse majorité des disciples de Jésus, et peut-être Jésus en partie lui-même, ce sont des pleutres, ce sont des lâches, qui parlent de Dieu, qui parlent d'amour, mais qui ne vont pas, en tout cas pour les zélotes, jusqu'au bout, c'est-à-dire aller jusqu'au sacrifice et au combat politique et à la guerre. Donc, pour les zélotes, les disciples de Jésus, ou la grande partie des disciples de Jésus, sont des lâches. Mais c'est qu'un... comment dire, c'est qu'une... une opinion.
Oui, mais enfin, il y a quand même la manifestation de cette division et au moment du dernier repas de la scène.
Et c'est là que
de
tout
la
explose.
Dernière scène, c'est là que tout explose.
Entre les pacifistes et les guerriers.
C'est ça.
Aucune réconciliation n'est possible. Je voulais pas faire de Simon et de Judas des personnes indépendantes qui ne parlent qu'au nom d'eux-mêmes. Je voulais qu'ils soient représentatifs d'un mouvement qui existait à l'époque, savoir les zélotes.
On n'a pas le temps, malheureusement, de parler de Marie de Magdala. On a laissé la seule femme du groupe.
On va encore nous accuser de...
Et oui. Mais juste pourquoi vous terminez au dernier repas et pas la crucifixion? Je ne parle pas de la résurrection, parce que là, il faut croire pour vivre, pour imaginer la résurrection. Mais sans cela, pourquoi ne pas être allé jusqu'à la grande séparation du tout le groupe?
Eh bien, pour une raison qui me semble évidente. Parce qu'il y a des historiens, des exégètes qui en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé.
D'accord.
Et je ne vois pas ce que j'aurais pu y apporter.
Ouais.
Mais pourquoi ce développement dans mon bouquin? C'est pour arriver à, quand même, il me semble, l'étape la plus importante, à savoir ce qui m'a le plus choqué dans les évangiles. Je dis bien choqué parce que ça va au-delà de ma compréhension. Et c'est la discussion que j'avais avec le prêtre Nicolas Germain hier. Comment ça se fait que la foule, lors de la présentation de Poncé Pilate, de Jésus par Poncé Pilate, n'a pas soutenu Jésus, alors qu'elle l'a acclamé 3 jours avant à son entrée à Jérusalem. Et c'est ça qui m'a vraiment intrigué et qui continue encore à m'intriguer. Et c'est pour ça que j'ai utilisé ce mouvement nationaliste pour faire passer Jésus de Barabbas comme un zélote. Un zélote qui était aimé par la population de Jérusalem. Et c'est peut-être pour ça, pour moi en tout cas, que la population a pris fait et cause pour Jésus de Barabbas et non pas pour Jésus de Galilée à la fin. Parce que Jésus était un Galiléen et n'était pas connu en Judée. Voilà l'une des raisons, à mon avis, qui peut expliquer.
Alors, ce livre est passionnant. C'est ces témoignages fiction qui sont très très qui sont assez probables souvent. J'ai beaucoup aimé. Donc je redis le titre du livre, Ecce Homo, l'Évangile selon toute vraisemblance, Pierre Elmer. Alors c'est pas un livre de foi, mais c'est un livre qui nous conduit à réfléchir et à discuter. Et la foi est jamais loin de la raison. Il le faut absolument. Et donc on n'est pas dans la certitude, mais on est dans la confiance. Et dans cette confiance-là, eh bien, cette confiance-là, il faut la guider, il faut la nourrir. Et ce livre nous le permet. Donc, merci pour ce livre et merci, je conseille à chacun de se le procurer dès que possible. On peut, je le rappelle aussi, réécouter le premier podcast qui est du 31 mars où nous avons fait un peu connaissance aussi avec vous, Pierre Elmer, et avec le début de ce livre, l'introduction de ce livre. Donc, merci à vous. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui et je vous donne, chers auditeurs, rendez-vous pour un prochain Théologie en Liberté. Merci. C'était « Et Dieu dans tout ça », une série que nous vous proposons dans le cadre de l'émission Théologie en Liberté. Vous pouvez nous écouter ou nous réécouter en podcast sur le site de la radio, radioallianceplus.fr, et même réagir, ce qui nous ferait plaisir, en nous écrivant à contact@radioallianceplus.fr en mentionnant le nom de notre émission. Merci, à bientôt.